qui est un projet, j'ai envie de dire, qui sonne un petit peu avec des tonalités d'années 90 sur la sonorité. Tu me dis quand je dis des bêtises.
Oui, complètement. Je hoche la tête. C'est pas radiophonique, mais oui, t'as raison.
Voilà. Et je voulais d'abord complimenter ta tenue. Je l'ai fait quand t'es arrivée. Les auditeurs ne le voient pas. C'est dommage, on fait de la radio ultra colorée, joyeuse. Et ça, ça fait plaisir.
Bah, merci beaucoup.
Alors, je me demandais si le Vera, il y avait un lien avec l'équipe de Scooby-Doo.
Tout à fait.
C'est ça.
Oui.
Voilà.
Oui, mais tu l'as eu. Bah ouais. Non, mais trop fan de ce personnage. Et puis, en fait, j'ai choisi un nom de scène un peu à mon image. J'aime bien les dessins animés. J'aime bien les années 90. J'aime bien les trucs un peu colorés. Je trouve que Scooby-Doo, en termes de couleurs, ils sont quand même une belle équipe, quoi.
Et puis Vera, c'était la plus cool parce qu'il y en a qui se la pétaient dans l'équipe.
Oui, c'est vrai.
Daphné, elle est quand même un peu, elle se la pète. Hein.
Franchement, ça va. Je crois que ça va. Le pire, c'est Fred.
Fred, il est horrible.
Fred, c'est
il
le pire.
Horrible.
Mais
il est horrible.
On l'aime quand même.
Mais voilà. Moi, mes préférés, c'était Vera et Samy.
Ouais, Samy. Bah, Samy, le loser par excellence, mais on l'aime aussi.
Ouais, mais avec panache. Et ça, c'est important d'avoir du panache dans la loose.
Ouais.
Alors, Vera, pardon, on est en train de.
Oui, on dit vague, mais c'est ok.
Ouais, mais ça fait partie de te découvrir, j'ai envie de te dire, Margot. Margot, tu propose un rock, je trouve joyeux, mélodique et coloré, je viens de le dire. C'est vraiment dans ce jus-là que tu t'exprimes au mieux, c'est ça l'idée, c'est la ligne artistique, j'ai l'impression quand même de ce rock joyeux et lumineux, enfin quelque chose de.
Ouais, après, c'est pas que ça, mais je trouve que j'aime bien dire que j'appartiens à cette scène rock qui cherche à sortir des clichés rock qu'on a pu connaître et voir ces dernières années, enfin ça fait un moment, mais
non,
voilà.
Il y a un stéréotype.
Du vieux rocker,
voilà.
Qui se drogue, enfin, tu vois, bon, bref. Et moi, j'aime bien me dire que il existe aussi un rock bienveillant qui prône des valeurs hyper cool et inclusif, féministe, intersectionnel, tout ça. Et voilà quoi.
Bon, en trois mots, en trois phrases, on vient de parler de militantisme, hein, on va se le dire. On est assez sensible à toutes ces questions-là quand même. C'est important pour toi qu'en tant qu'artiste, tu viennes poser aussi certaines valeurs, certaines valeurs tout simplement, et certains combats aussi sur scène.
Oui, carrément. Je trouve que dans mes chansons, par exemple, ça peut ne pas trop se ressentir, mais quand on est artiste, pour moi, je pense qu'on est obligé d'être politisé, engagé, et quand on est une femme encore plus, quand on monte sur scène, quand on joue de la guitare, c'est hyper important d'être consciente de ce qu'on fait et de ce qu'on peut apporter. On peut donner envie à des jeunes filles de se lancer. On est un peu comme des modèles, qu'on le veuille ou non. Et du coup, moi, je trouve que c'est aussi une belle partie de la musique et de l'art en général. C'est qu'on a une voix politique à apporter, quoi. Donc,
ouais, c'est ça, c'est la conscience d'avoir une voix politique dans le travail artistique.
On transmet des messages, on transmet des émotions et en fait, sans politique, il y a sans subvention, par exemple, il n'y a plus de concerts, tu vois, c'est compliqué. Donc on est obligé de se politiser, quoi. Je me répète, mais voilà.
Mais oui, non, mais on ne va surtout pas t'arrêter sur ce terrain-là. Justement, aujourd'hui, on est sur un festival gratuit qui tient sa gratuité contre vents et marées, parfois. Ça fait partie de l'âme de ce festival. Ce qui permet d'avoir un public familial, ce qui permet, parce que quand on sort à 4 ou 5 membres de la famille sur un festival payant, tout de suite, c'est un budget à anticiper. Sur un festival gratuit, c'est hyper important. Ça permet d'avoir des poussettes, des gens qui découvrent et qui aussi découvrent les artistes qui vont se produire sur scène. J'imagine que tu es sensible aussi à cette question d'accès à tous,
pour
tous, à la culture.
Ouais, complètement.
On parlait un petit peu de ce côté militant, je disais que c'était coloré, que c'était assez mélodique, mais il y a aussi quelque chose d'assez direct, en fait, dans ce rock que tu proposes. Il fait pas de détour, en fait. Il est direct. On peut se le prendre dans la face aussi, quoi.
Ouais, carrément. C'est aussi. J'aime bien être coloré et être joyeux sur scène, mais il y a quand même des sujets qui sont pas drôles, et en fait, on peut les aborder avec la colère, et c'est de la bonne colère. C'est une colère qui sert de tremplin, d'impulsion pour changer les choses, quoi. Donc oui, ça peut être un rock très frontal, quoi.
Ouais, c'est ça qui fait plaisir aussi, parce qu'on vient chercher ça, hein, face à une scène.
Une énergie rock, on a besoin de se défouler, et ça commence par là aussi.
Alors t'es pleine maîtresse de tes projets. C'est toi, Margot, qui pilote ton projet.
Ouais, j'ai mon propre label.
Voilà, il y a vraiment une autonomie dans la façon de produire. Est-ce que tu as quand même le regard? Alors, je sais que tu travailles. Ça y est, j'ai oublié son prénom. Je l'avais écrit tout à l'heure avec.
Gigi, peut-être.
Voilà, c'est ça, oui. Exactement. Tu travailles avec cette personne-là. Ouais. Est-ce qu'il y a des regards autres sur ton travail qui viennent influer sur ce que tu peux faire, qui peuvent aussi, partager le taf avec toi?
Je me suis entourée d'une équipe. Là, actuellement, j'ai une super manageuse qui s'appelle Muriel. J'ai une bookeuse qui s'appelle Chloé qui travaille chez Persona Grata. Et j'ai une équipe constituée principalement de femmes.
Mais on peut la
femmes.
Considérer quand même. Hein.
Oui, considérée. Pardon, je mélange les mots. Mais constituée de femmes, et ça, j'en suis fière. Et
c'était un
non,
choix.
Disons que c'était pas vraiment un choix, ça s'est fait naturellement. Mais bon, je pense que ça reste un choix aussi de vouloir m'entourer de gens qui me comprennent aussi. Donc voilà. Et sinon, musicalement, je m'entoure donc de Gigi dont on parlait, avec qui j'ai travaillé sur tout l'EP. Donc elle a réalisé l'EP avec moi. Et à la batterie, je suis avec Amélie Leroux, qui est une super batteuse, qui est aussi une super copine. Et en fait, on part en tournée, on a l'impression d'être Thelma et Louise, et c'est trop bien. Et
enfin, ça finit mal, Thelma et Louise.
Sans la fin. On spoile pas, mais voilà, ça s'arrête. Que sur les bonnes raisons.
C'est en fait dans ce que tu dis, j'entends quand même quelque chose d'ultra féministe quand même, à travers l'équipe, à travers la façon de bosser, à travers défendre des valeurs. Il y a un truc ultra féministe qui passe. Et je me permets de venir un peu te piquer deux secondes. Tu disais, je suis entourée de femmes, comme ça je suis comprise. Les hommes peuvent pas comprendre le projet. Là, je me permets.
En fait, je pense que si, mais je pense que j'ai été énormément déçue dans ma vie par les hommes, parce que bon, c'est pas une attaque personnelle, voilà, c'est vraiment je pense que quand on est une femme, on a déjà conscience des oppressions qu'on subit, des injonctions, des problèmes, tu vois, on a tous les mois, on a un truc qui s'appelle les règles et qui est pas cool, il y en a qui ont l'endométriose, enfin c'est des trucs qu'on comprend de base quand on est des femmes, et ces sujets-là sont encore un peu trop discrets dans les cercles masculins, je trouve, et du coup pour moi, déjà, ça me permet d'être un peu plus à l'aise de commencer à travailler avec des femmes. Après, je suis pas du tout fermée. Genre vraiment, comme je disais, c'est pas un choix. C'est un choix, je pense, intrinsèque. Enfin, tu vois. Mais je suis pas fermée à travailler avec des hommes. Il y a pas de.
Tu parlais de tout un tas d'éléments. Je me permets d'ajouter parce qu'on entend de plus en plus parler, comme dans l'espace public. Tu parlais des règles, tu parlais de l'endométriose. On parle aussi de ménopause de plus en plus, des symptômes préménopause. Enfin, c'est rentré dans le discours. J'ai envie de dire, dans la discussion. Commune en fait de ce monde, et ça c'est plutôt pas mal que tout le monde en entende parler, quoi.
Ouais, c'est super que ces sujets deviennent un peu plus accessibles.
C'est un peu récent, c'est plus moderne.
Ouais, je suis d'accord.
Moderne, non, c'est pas moderne le mot. Récent, c'était récent. Très bien.
Mais de petit à petit, en vrai, moi ça fait, on va dire que ça fait 10 ans que j'ai commencé la musique vraiment à Paris professionnellement. Ça fait 10 ans que je suis là et je constate quand même qu'il y a une évolution et qui est cool. Dès que je tourne, je vais dans des salles, il y a toujours des meufs au plateau, alors qu'à l'époque c'était pas ça, et je trouve ça super. Petit à petit, vraiment, il se passe quelque chose, quoi.
Il y a eu un gros boulot qui a été fait. More Women on Stage fait partie des mouvements qui ont participé à la visibilisation. Je sais pas si, visibilisation, effectivement, des femmes dans des métiers qui, pendant très longtemps, ont été plutôt des métiers d'hommes, effectivement. Ouais. Cela dit, aujourd'hui, on fait les mêmes arrières de scène régulièrement, et de plus en plus de femmes, effectivement, sont sur ces métiers-là, c'est plutôt pas mal.
Oui.
Sur la musique, j'ai que ça sonnait un peu 90 sur certains aspects de la sonorité. Moi, je voulais savoir, je sais pas, t'es venu en voiture, en hélicoptère, en bateau ici?
On est venu en van.
Vous avez un van de tournée. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'autoradio? Qu'est-ce qui tournait?
Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, tu vas trouver ça très drôle. On a écouté un enregistrement d'un concert, de notre concert, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Du coup, on s'est un peu remémoré le set. Donc, on a écouté ça, et puis après, on a écouté Hayley Williams qui joue ce soir à Wheel of Green, qui est un festival à Paris. Et on est dans l'équipe, on est fan de cette meuf, et on est un peu deck de la louper, mais on est très contente d'être là. Donc, ça m'a le point bien. Bon.
Et du coup, quel est le dernier concert en tant que spectatrice que tu aies vu qui t'a marqué, un truc sur scène qui t'a un peu soufflé? Alors je dis dernièrement, ça on peut remonter comme tu veux. Hein.
Oh là là, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai?
Et c'est pas forcément le meilleur. J'exclus cette notion de le meilleur. Ouais. Regarde, c'est un truc qui t'a marqué.
Un concert qui m'a marqué. Attends, faut que je réfléchisse un peu. Là comme ça, je crois que c'était l'année dernière. Il y avait Boy Genius à Rock en Seine, qui a un groupe composé de Phoebe Bridgers, Lucy Dacus et Jillian Baker, qui sont trois meufs qui ont leurs projets respectifs et qui ont monté une sorte de super groupe de meufs. Et c'est incroyable, les textes sont trop bien, leur complicité sur scène est trop belle à voir, et voilà, elles s'entourent que de meufs aussi, donc c'est hyper inspirant. Et le public fait aussi partie de l'équation, parce que c'est un concert, enfin un concert sans public c'est pas un concert, mais voilà, il y a un truc de communauté hyper bienveillante, féminine et queer, enfin il y a un truc trop chouette quoi dans ces concerts là, donc c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir.
Dans un monde de rêve, on n'est plus dans la réalité. Ouais. Une collaboration avec qui t'inspirait, un truc même inaccessible. Hein, on cherche pas la réalité, mais à découvrir un petit peu avec qui tu aimerais, dans un monde idéal, pouvoir travailler.
Je parlais de Hayley Williams. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé son dernier projet. Donc j'irais Hayley Williams. Et puis il y a un groupe en ce moment que j'écoute beaucoup qui s'appelle Slow Pulp. Je leur ai écrit d'ailleurs pour essayer de voir si on pouvait collaborer ensemble. On m'avait répondu et enfin c'était pas possible, mais voilà, c'est des groupes comme ça qui sont un peu plus accessibles et j'aimerais bien travailler avec eux un jour.
Ouais, c'est ça, tenter le truc de dire.
Ouais, en vrai, on n'est pas à l'abri qu'on nous réponde, et je trouve que c'est bien des fois d'oser envoyer un mail comme ça. Et...
Ouais. Exactement. Ce soir, tu joueras aux alentours de, je l'ai pas noté, mais je vais le regarder tout de suite, aux alentours de 18h15 sur la scène.
Aussi, je vais
tu vérifies.
C'est bien ça.
Ah, c'est moi, j'y vais.
C'est bon.
C'est voilà, aux alentours de 18h15 sur Ça sonne à porte. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, je sais pas, une mise en scène spécifique, une pression spécifique pour toi, une joie particulière, une joie.
On est dans la joie. Moi, c'est la première fois, je crois, que je fais un festival comme ça sur une. La scène est très grande et je suis trop contente. C'est trop bien. On est arrivé, il y avait grand soleil. Plein de monde, enfin c'est trop bien. Franchement, je suis hyper contente d'être là, hyper reconnaissante de pouvoir tourner en France et dans des festivals, dans des salles, c'est trop stylé.
Normalement à 18h15 c'est noir de monde après en plus.
Ah ouais,
hein. Ah oui, oui, ça se remplit. Ah bah oui, là on n'est pas au max. Hein. On n'est pas au max. Hein.
Ah ouais.
Non, ça fonctionne bien.
Non mais en vrai,
voilà. Merci beaucoup à toi,
à toi.
Margot. Vera Daisy sur le projet d'être passé par nos micros et là cette fois c'est vraiment un titre en anglais et je te propose qu'on envoie pour conclure notre échange Cheese Game.
Oui.
Merci à toi. Vera Daisy, c'est ce que vous venez d'écouter avec Cheese Game. Cheese Game. Chase. Oh là là, mais j'ai un anglais toujours ultra pourri. Heureusement, nous avons Sandra avec nous qui fera des traductions de ce que je bafouille. Et je vous assure que ça, ce sera carrément beaucoup mieux que ce que je suis en train de vous raconter. Nous sommes toujours en direct, en live et en public de Ça sonne à la porte.
Comme une antenne capte une multitude de fréquences, pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle du tuneur.
Nous nous excusons de la mauvaise qualité du son, dont la cause est indépendante de nos installations.
C'est pas mal, Jamy, mais j'entends pas terrible, hein. Ça grésille.
Et la FM, c'est fait pour quoi ?
Principe actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.
Et nous sommes toujours, comme je le disais, en direct, en live, en public du festival Ça sonne à la porte. Nous avons les Captain Parade qui sont en train d'être sur la fin de leur set, je crois, hein. Ça ressemble à ça. Ça joue du rock'n'roll depuis maintenant un bon moment. Dans un instant, sur les scènes de Ça sonne à la porte, vous retrouverez Dominique Février, il y aura James Baker, il y aura Vera Daisy, que nous avions il y a un instant à nos micros, Shame, James Grunts, Jack Garratt, Follies, Deluxe, The Deep, Michel Hubert, et bien entendu notre DJ préféré, l'ami DJ Deuce, qui clôturera cette journée. Quoi ? Ah, Didier, ah, il m'en veut, hein, c'est Didier Deuze, c'est ça. Bah voilà, Didier Deuze qui sera avec nous. Je l'avais bien fait les trois premières fois, et là, voilà, bêtement, oui, s'il vous plaît, faisons ça. Donc, je disais, on fait bien entendu les artistes présents sur ce festival, mais nous rencontrons aussi les associations qui sont sur ce village associatif. Dans un instant, nous rencontrerons l'association Silence à l'écoute, ma collègue Florence du groupe de Vous à nous, on vous dit presque tout, est avec moi, on se partage le micro bien entendu, si Benjamin vaut bien, oh là là, on est dans le grand vent là, bah voilà, les aléas du directeur, pour tout expliquer aux auditeurs qui écoutent dans leur voiture à l'abri du vent, dans le salon à l'abri du vent, dans leur jardin, peut-être en plein vent, nous essuyons une tempête de vent, et bon, on aime ça en fait, et c'est très très bien, tout à fait, voilà, Florence est en train d'équiper, alors hop, avec le casque dans le bon sens, voilà, non, dans le bon sens d'oreille, excusez-nous, c'est du direct, c'est du live et c'est en public, voilà, et on équipe nos invités pour pouvoir échanger avec eux. Et nous avons Florence aussi qui nous rejoint au micro. Ça va, Florence ?
Ça va, bonjour, bonjour Benjamin.
Salut. Voilà, je te laisse commencer, Florence.
Eh bien oui, donc là nous sommes en compagnie de Benjamin, que j'ai rencontré tout à l'heure, et qui est donc directeur de l'association Silence à l'écoute. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bien sûr. C'est ça, directeur de l'association Silence à l'écoute, qui est une association qui lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Oui. Cette association, elle a 5 ans d'existence maintenant. Bien. Je l'ai cofondée avec mon jeune frère Simon, et on est basé à Évreux, et on met en place pas mal de choses pour contribuer à libérer la parole de tous autour de ce sujet qui est encore trop tabou aujourd'hui.
Alors, dans un but pratique, donc vous êtes basé à la Maison de la Santé à la Madeleine, c'est ça, près de la nouvelle piscine qui
est en train de construire. La future piscine, voilà. Tout à fait.
Donc moi, ma question va être un petit peu personnelle, comment vous en êtes venu justement à militer au sein de cette association ?
Eh bien, malheureusement, lorsqu'on était gamin, nous on pratiquait le tir à l'arc à haut niveau avec mon frère, avec pas mal d'amis. On adorait, on adulait un entraîneur qui était brillant, qui était extraordinaire pour tout un tas de raisons, qui était un champion aussi, hein, qui cumulait les titres et les médailles. Et puis il nous a amené à décrocher pas mal de médailles aussi, hein, et devenir des petits champions. Mais cet entraîneur a été très mal intentionné. Il nous a agressé et violé sur le plan sexuel à de nombreuses reprises. Et comme bon nombre de personnes victimes, on a mis une dizaine d'années avant de libérer notre propre parole.
Voilà. Et vous avez été écouté à ce moment-là quand vous avez libéré la parole, ou ça a été difficile ?
Oui, on a eu cette chance-là d'être en tout cas entendu, écouté et cru par nos proches, ce qui a facilité aussi l'engagement de pas mal de démarches, à la fois sur le plan psychologique et sur le plan judiciaire. Mais c'est une bonne question que vous posez là, parce que bon nombre de victimes ne sont pas entendues, ne sont pas crues, et dans bien des cas, ça rajoute du traumatisme au traumatisme déjà vécu, en fait.
Tout à l'heure, on a échangé en préparant l'interview, justement, de se dire que nous, à mon époque, moi, quand j'étais jeune maman, on trouvait ça inconcevable que ces choses puissent se faire. Et est-ce que vous avez des retours de parents qui justement, portent cette culpabilité de ne pas avoir deviné, su, voilà, les violences faites à leurs enfants?
Oui, malheureusement, la culpabilité, c'est le facteur commun de toutes les victimes. C'est quand même très surprenant. Lorsqu'on subit une violence dans la vie, en général, on réagit, on s'affirme, on dépose plainte. Mais cette violence-là, systématiquement, on se sent coupable. Ouais. Et la culpabilité, elle se répand chez tous les proches aussi, hein, à tous les niveaux, chez toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant aussi. Et c'est ce qui rend aussi la libération de parole compliquée. Et dans bon nombre de cas, ces situations-là restent sous silence, restent au sein des familles et ne sont pas réellement accompagnées et soignées comme ça mériterait de l'être.
Ouais. Alors là, on parlera tout à l'heure un petit peu de votre action au sein en local, mais je pense que je vais vous faire réagir un petit peu sur l'actualité malheureusement nationale. Comment pouvez-vous réagir à ce genre de faits qui se sont passés récemment?
C'est toujours aussi impactant hein, d'entendre ces faits-là, même si finalement ils ne sont pas nouveaux. Hein. Ça a toujours existé, que ce soit dans le milieu sportif, dans le milieu scolaire, dans le milieu des centres de loisirs, de l'animation. C'est juste que c'est un tout petit peu plus médiatisé ces derniers temps. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est souvent par l'exemple que d'autres victimes aussi se libèrent.
Hein. Moi, je voulais surtout vous faire réagir sur le fait que malgré les dénonciations, malgré les plaintes, rien n'a été fait en fait. Est-ce que le système judiciaire a besoin, à l'heure actuelle, c'est prouvé, mais donc d'évoluer et de se donner les moyens justement de répondre à toutes ces sollicitations et ces plaintes?
Ouais, c'est une vraie question de moyens hein, qui mérite d'être engagée sur ce fléau, parce que c'est un fléau. 160 000 enfants sont victimes chaque année, c'est un enfant toutes les 3 minutes environ. Dans 80% des cas, c'est intrafamilial. Et oui, seulement dans 94% des cas, il y a une condamnation judiciaire au bout du bout. Donc oui, ça manque cruellement de moyens, et y compris dans le milieu
judiciaire. Sur notre territoire, vous avez un peu les retours sur la réponse judiciaire à tous ces faits?
Écoutez, nous, on fait pas mal d'accompagnement psychologique, mais on essaye aussi d'accompagner les personnes qui sont prêtes à porter plainte pour leur offrir un soutien moral dans cet enfant-là, que sont le dépôt de plainte ou le rendez-vous avec le juge d'instruction, ou par la suite aussi lorsqu'il y a procès.
Alors pour en revenir donc à votre association, quelles sont les actions? Donc vous sensibilisez, vous faites de la formation auprès des enfants, des adolescents, vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
C'est ça, il y a plusieurs axes stratégiques. Nous, ce qui nous importe en premier lieu, parce qu'on considère que c'est quand même une problématique avant tout qui mérite d'être connue et identifiée par les adultes, hein. Mieux connaître ce sujet-ci, ça nécessite que les adultes soient à même de connaître cette violence-là, de l'identifier, et pour ce faire, on mène de nombreux temps de sensibilisation. J'anime pas mal de formations aussi à destination de professionnels de l'enfance dans différents milieux, les amener à identifier les signaux chez les enfants et les adolescents victimes dont ils s'occupent, et puis les amener aussi à être en capacité d'accueillir la parole. Lorsque l'enfant se libère, il y a des mots simples pourtant, mais qui sont très très importants à dire à l'enfant qui se libère, parce que dans ce moment-là, ça peut constituer une vraie clé de réparation aussi. Quoi. Donc c'est tout le cœur des formations que je suis amené à délivrer.
Est-ce que vous agissez uniquement sur les violences sexuelles en fait?
Oui, violences sexuelles faites aux enfants. Alors c'est vrai que quand je dis ça, ça laisserait penser qu'on accompagne beaucoup d'enfants au quotidien, et finalement ça n'est pas forcément le cas. On accompagne énormément d'adultes qui ne s'en libèrent que des années plus tard, et on accompagne aussi quelques enfants et quelques adolescents qui arrivent à s'en libérer. On les accompagne sur le plan psychologique beaucoup. J'ai une collègue à mes côtés qui est psychologue, qui s'appelle Sarah Decoun, qui fait un travail remarquable, avec laquelle je co-anime des groupes de parole à raison d'une fois par mois, le mercredi soir. Et puis elle offre aussi des séances individuelles psychologiques spécifiques pour des personnes qui auraient besoin de travailler spécifiquement leur traumatisme en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Et sinon, comment on vous contacte alors? Parce que en fait là c'est pour faire un premier bilan, on va dire, avec la psychologue, avec vous, pour vous rencontrer. Quelle est la démarche?
Oui, il y a deux possibilités. Le numéro de téléphone, mon numéro de téléphone direct en fait, le 07 49 63 96 78. Et puis les personnes qui ne se sentent pas forcément d'appeler, elles peuvent aussi rédiger un mail. Le mail, c'est silence.a.lecoute@gmail.com.
Voilà.
En général, c'est moi qui accueille pour la première fois les personnes. On prend le temps de discuter tranquillement. Et puis, en fonction de ce qu'ils me livrent et du besoin que je peux identifier, soit je propose l'accompagnement de ma collègue, soit on oriente vers d'autres, vers d'autres structures si jamais il y avait besoin.
Donc, c'est votre première participation au Festival Façonne à la Porte?
Non, pas du tout. C'est la troisième.
C'est la troisième. Ah, d'accord. Je ne vous avais pas rencontré l'année dernière. Alors, j'avais pas. Voilà. Mais donc, et quel est le ressenti justement du public? Notamment, hier, il y avait beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez vu beaucoup de public jeune qui est venu discuter avec vous?
Oui, jeunes et moins jeunes. En fait, jeune, on a aussi pas mal d'adultes. C'est chouette. On fait gagner un t-shirt. Il y a un petit quiz qu'on propose pour faire gagner un t-shirt Silence à l'écoute. Et donc, du coup, on a eu pas mal de passages pour le gain du t-shirt. Ouais, voilà. C'est chouette.
Oui, et sinon, alors, vous dites vous êtes donc directeur, donc employé, la psychologue aussi. Quelles sont vos ressources au niveau de l'association?
Nos ressources, elles sont partagées entre des ressources privées. On parlait des conférences et des formations que je suis amené à animer. Dans bien des cas, j'arrive à les valoriser auprès des structures. Donc, c'est ce qui permet de rentrer quelques recettes. Et puis, on est de plus en plus quand même soutenu par les institutions sportives que sont l'Agence nationale du sport, les délégations régionales ou départementales jeunesse et sport. Un petit peu l'Agence régionale de santé. Aussi
l'ARS, vous avez des financements ARS.
Un tout petit peu, mais ça permet en tout cas de mener des temps de prévention dans les écoles. Ça nous a permis de déployer ça ces derniers temps. Finalement, de faire en sorte de donner des moyens aux enfants de se protéger de ces violences-là. Et puis, c'est aussi faire en sorte que certains de ces enfants ne deviennent pas eux-mêmes auteurs de ces violences-là.
Oui, parce que malheureusement, souvent, il y a un report.
Voilà, le département de l'Eure, un petit peu. Enfin, voilà, quelques instances.
Oui, voilà, parce que je pense qu'au niveau des instances comme le département, tout ça, ils doivent être partie prenante quand même, surtout avec les événements actuels. Je pense que vous allez quand même bénéficier, j'espère, au moins d'une meilleure écoute.
Oui, petit à petit. Plus le temps passe, plus la reconnaissance de la qualité de notre travail se met en place.
Et sinon, au niveau de l'éducation nationale, quel accueil vous avez à ce niveau-là?
Jusqu'à maintenant, on n'a malheureusement pas pu obtenir les agréments qu'on voulait pour pouvoir intervenir de manière plus facile dans les différentes écoles.
Oui.
Mais on espère pouvoir renouveler notre demande et qu'elle soit à un moment donné acceptée.
Et alors, moi j'ai une question un petit peu curieuse, mais est-ce que cela touche toutes les couches de la population ou est-ce qu'il n'y a pas une couche plus particulière, par exemple une couche d'ouvriers, des bourgeois, des...
Non, ça touche vraiment de manière équitable toutes les catégories socio-professionnelles, comme on dit. Le rural comme l'urbain, il n'y a vraiment
pas de frontières. Et quels sont les signaux d'alerte en fait? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques signaux?
Alors, il en existe de nombreux signaux faibles qui pourraient laisser penser que ça se réfère à d'autres types de violences, type physique ou psychologique, mais il existe une petite liste exhaustive effectivement de signaux forts, et ceux-là, lorsqu'on les voit, forcément ça vient augmenter la potentialité que l'enfant, l'adolescent, ou même si on le voit chez l'adulte, ait vécu cette violence-là dans son enfance. Elles sont souvent en rapport avec la sexualité. Un comportement sexuel qui serait problématique, qui serait compulsif et irrépressible, constitue un signal fort. Les scarifications chez les jeunes filles, lorsqu'elles sont situées au niveau des cuisses, de l'intérieur des cuisses, ça constitue un signal fort de violence sexuelle subie. La masturbation compulsive chez le jeune enfant. On parle souvent des changements de comportement, mais qui sont soudains. C'est-à-dire qu'on connaît bien l'enfant, et puis soudainement, il va être amené à changer de comportement. Typiquement, un enfant qui serait hyper sociable, très en lien avec les adultes comme avec les enfants, et qui, d'un coup d'un seul, s'isolerait, se replierait sur soi, et serait dans un mutisme, ça peut constituer aussi un signal fort.
Mais écoutez, je crois que malheureusement, vous avez un gros travail, dans notre région, en fait, parce que je crois qu'il y a beaucoup... Mais il y a aussi, comme vous disiez, beaucoup d'adultes qui n'ont pas osé, justement, libérer la parole. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces jeunes, à ces personnes-là? Parce que les adultes, même s'il y a prescription, je pense que la prescription pour la personne elle-même, elle est à vie. Donc, il n'y a pas de prescription pour ça. Donc,
on peut se réparer à tout âge, même s'il ne nous est plus possible d'engager la procédure judiciaire. Bien sûr, on peut se réparer à tout âge. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Je vais utiliser le slogan de l'asso en parler, c'est avancer, tout simplement. Oui, hein, voilà, vraiment, c'est ça. Hein, ouais. Et qu'ils n'hésitent pas à prendre contact.
Voilà. Mmh. Parler des violences sexuelles, hein, c'est ça surtout.
Il ne faut pas avoir de tabou
et parler des choses.
Bien sûr, on est nombreux à l'avoir vécu.
Donc écoutez, moi j'étais ravie de cet échange parce que je connais votre association maintenant, je ne la connaissais pas. Et je trouve qu'effectivement, elle a sa raison d'être. Et j'espère que vous arriverez à faire avancer les choses et que nous arriverons tous à vous aider à faire avancer les choses. Voilà, j'y sais. Donc je pense qu'on va arriver à la fin de notre interview, si tu as quelque chose à rajouter.
Mais j'aime bien que tu dises notre interview. Tu l'as menée de main de maître, Florence, et c'était un vrai plaisir. Merci à toi, merci beaucoup Benjamin.
Merci Gisèle
d'être passé par nos micros. Nous, on va se rapprocher de la musique et on va écouter, parce qu'ils sont sur scène actuellement, c'est Captain Parade qui sont en train de jouer. On les aura aux alentours de 17h à nos micros, mais là ils sont encore sur scène. Je propose qu'on en écoute un morceau, c'est les fameux 4 accords magiques.